Réflexion sur l'Évangile selon Matthieu. Chapitre 1er. Le premier verset du Nouveau Testament ramène nos pensées au premier livre de l'Ancien. Généalogie, ou génération, étant la traduction du mot grec Genesis. Matthieu, en particulier, et tout le Nouveau Testament en général, est le livre de la généalogie de Jésus-Christ. Si nous revenons au livre de la Genèse, nous voyons qu'il se divise en 11 sections et que chacune d'elles, sauf la première, commence par des générations. Ainsi, la troisième section s'ouvre par « C'est ici le livre des générations d'Adam », chapitre 5, verset 1. Et tout l'Ancien Testament nous révèle la triste histoire d'Adam et de sa race, histoire à laquelle, avec un sinistre à propos, le mot « malédiction » vient mettre un point final. Quel immense soulagement que de pouvoir alors passer des générations d'Adam à la généalogie de Jésus-Christ où la grâce est introduite. Et c'est sur cette note que le Nouveau Testament se termine. Jésus est présenté dès le début sous un double aspect. Il est fils de David et par conséquent, la couronne royale que Dieu destinait originairement à David lui appartient. Il est également fils d'Abraham. Il a donc droit au pays et toutes les bénédictions promises lui reviennent. Ceci établi, nous avons sa généalogie depuis Abraham jusqu'à Joseph, le mari de Marie. C'est sa généalogie officielle selon la manière juive. La liste qui nous en est donnée est remarquable pour ses omissions. Trois rois, étroitement liés à l'infâme Athalie, manquent au verset 8. Et le résumé relatif aux 14 générations du verset 17 montre qu'il ne s'agit pas d'un oubli accidentel, mais que Dieu désavoue et refuse de compter les rois qui descendent le plus directement de cette femme vouée au culte de Baal. Cette généalogie est aussi remarquable du fait que seules 4 femmes y figurent, et encore, ce ne sont pas celles que nous nous serions attendus à trouver là. Deux d'entre elles, Rahab et Ruth, étaient des gentiles. Ce qui ne doit pas avoir été sans porter un certain coup à l'orgueil juif. Elles étaient toutes deux des femmes d'une foi exceptionnelle, bien que la première ait vécu dans l'immoralité qui caractérisait le monde païen. De la seconde, nous ne savons que du bien. Les deux autres, Tamar et Bathsheba, ont chacune une triste histoire. Il ne nous est rien dit qui soit vraiment à leur honneur. En fait, le nom de Bathsheba n'est pas mentionné. Elle est simplement celle qui avait été femme d'Uri, ce qui proclame sa honte. Ainsi, là encore, tout est de nature à porter atteinte à l'orgueil juif. Certes, la généalogie de notre Seigneur n'ajoute rien à ce qu'il est, mais elle était la garantie de sa vraie humanité et du fait que les droits accordés à David et à Abraham étaient légalement siens. Mais si les 17 premiers versets nous confirme que Jésus était véritablement un homme, la suite du chapitre nous montre qu'il était bien davantage qu'un homme. Il était Dieu lui-même, présent au milieu de nous. Un messager angélique prévient Joseph, le fiancé de Marie, que l'enfant qui a été conçu en elle est de l'Esprit-Saint, et il devra être appelé Jésus à sa naissance. C'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Aussi doit-il porter le nom de Sauveur. Seul Dieu a la capacité de donner un nom en vue de ce qui sera accompli dans l'avenir. Il peut le faire, et combien ce nom merveilleux a été pleinement justifié. Dans des jours à venir, quelle riche moisson d'êtres sauvés sera rassemblée, tous délivrés de leurs péchés, et non pas seulement du jugement que ceux-ci méritaient. Seul son peuple sera sauvé ainsi. Il faut en faire partie, par la foi en lui, pour connaître son salut. Ainsi a été accomplie la prédiction d'Ésaïe 7, verset 14, qui annonçait clairement la grandeur et la puissance du Sauveur qui devait venir. Son nom prophétique, Emmanuel, indiquait qu'il serait Dieu manifesté en chair. Dieu parmi nous, d'une manière bien plus merveilleuse qu'il n'avait jamais été manifesté au milieu d'Israël au jour de Moïse, bien plus merveilleuse aussi que lorsqu'il était avec Adam avant que le péché entre dans le monde. Les deux noms sont intimement liés. Il serait impossible d'avoir Dieu avec nous si nous n'étions pas sauvés de nos péchés. Sa présence ne pourrait que nous écraser en jugement. Être sauvés de nos péchés et ne pas avoir Dieu avec nous aurait été possible, mais l'histoire de la grâce aurait été privée de sa gloire principale. Dans la venue de Jésus, nous avons les deux. Dieu est venu à nous, et, nos péchés étant ôtés, nous avons été amenés à lui.